Loire FM, aux portes du Dauphiné, 107. L'invité.
Le 28 février, c'est la journée internationale des maladies rares. Il existe 5 à 8 000 maladies rares qui touchent 3 millions de personnes en France et jusqu'à 30 millions en Europe. Cette 11e journée internationale des maladies rares s'intéresse à la recherche et au rôle proactif que la personne maladie tient autour d'un slogan « Rare, fier, soyons solidaires ». Pour nous parler de ces maladies, le docteur Alexandre Belot est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rhumatopédiatre à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants à Bron, également chercheur à l'INSERM, en charge de la co-animation de la filière des maladies auto-immunes et auto-inflammatoires rares et responsable du centre de référence des maladies rares, des rhumatismes inflammatoires et des maladies auto-immunes systémiques rares de l'enfant. Une maladie est dite rare lorsqu'elle touche moins d'une personne sur 2000. Quelles sont les autres caractéristiques un petit peu des maladies rares?
Alors, bien, vous les avez bien pointé du doigt. C'est leur fréquence qui est définie par ce niveau inférieur à 1 sur 2000. Et donc, elles sont rares. Elles sont comme particularité d'être souvent génétiques, de commencer souvent tôt dans la vie. Il y a plus de 80% des maladies rares qui sont liées à des maladies génétiques. Et puis, elles ont en commun, même si elles sont très hétérogènes, elles peuvent toucher un petit peu tous les organes et je dirais dans tous les champs de la médecine, il existe des maladies rares. Mais elles ont en commun le fait d'être souvent orphelines. On entend par orpheline le fait qu'il n'y ait pas de traitement dédié. C'est vrai que ce sont des maladies qui intéressent peu les industriels et qui font souvent la souffrance de nos patients qui n'ont pas de traitement particulier associé à leur maladie. C'est un champ qui existe beaucoup en pédiatrie. La pédiatrie est sans doute l'un des plus grands fourvoyeurs de ces maladies rares que l'on rencontre. Un enfant, eh bien, habituellement, il n'a pas de maladie chronique en tout cas. Et ces maladies chroniques rares surviennent volontiers à l'âge pédiatrique, mais pas seulement. Il y a aussi des maladies rares que l'on peut découvrir à l'âge adulte. Et elles intéressent aussi les chercheurs, ces maladies rares, les chercheurs académiques, je dirais, parce que à travers les anomalies génétiques que l'on peut identifier chez les uns les autres, chez certains patients, eh bien, on peut aussi mieux comprendre comment fonctionne l'être humain et essayer d'améliorer les traitements puisque ce travail n'est pas régulièrement fait par les industriels.
Pourquoi est-ce que ces maladies touchent principalement les enfants?
C'est lié finalement à leur forte empreinte génétique. C'est près de 80% des maladies rares qui sont des maladies génétiques. Eh bien, les gènes, nous les portons à la naissance et c'est eux qui vont déterminer la survenue ou non d'une maladie. Et donc, c'est pour cette raison que nombre des maladies rares surviennent à l'âge pédiatrique et les premiers symptômes apparaissent chez l'enfant. Néanmoins, ce sont des maladies rares, ce sont des maladies qui sont parfois mal reconnues, même par les pédiatres, et le diagnostic est parfois fait plus tard dans la vie, lorsque soit cette maladie devient connue et on est en capacité de faire le diagnostic, et que nos collègues adultes, eh bien, reconnaissent ces éléments qui vont conduire au diagnostic. Et ce diagnostic, il est vraiment précieux parce qu'il y a dans le champ des maladies rares un retard diagnostique vraiment majeur.
Justement, comment est-ce que les médecins posent un diagnostic de maladie rare? Combien de temps est-ce qu'il faut en règle générale pour diagnostiquer une telle maladie?
La moyenne pour le diagnostic de nos maladies rares, c'est 4 ans. 4 ans, c'est extrêmement long. C'est autant de temps de souffrance des familles, des parents et puis des patients avant qu'on puisse porter un nom. Et on sait combien c'est précieux de pouvoir avoir le diagnostic de sa maladie. Et donc, comment on le détermine? Eh bien, il faut déjà reconnaître les symptômes. Il faut savoir que les éléments qui apparaissent chez un enfant ou chez un adulte, eh bien, correspondent à une entité particulière qui va nécessiter des explorations spécifiques. Les explorations spécifiques, eh bien, c'est souvent des analyses génétiques. Et je dirais que ces dernières années, le poids de la génétique, les capacités que l'on a désormais d'explorer la génétique de l'homme a vraiment changé aussi la donne pour pouvoir conduire des diagnostics plus précoces.
Finalement, ce temps de diagnostic, il est dû aux parents qui ne vont pas forcément voir, qui ne connaissent pas forcément les bons spécialistes, ou aux médecins qui, quand on a une maladie, 5 à 8 000 maladies rares, on le disait, une maladie qui touche une personne sur 2000, on ne pense pas à ce genre de maladie quand on voit certains symptômes?
Absolument. En fait, on ne pense pas à cette maladie lorsqu'on voit certains symptômes parce que on ne peut pas tout connaître en médecine, c'est évident. Et il s'agit de maladies rares ou voire rarissimes. Il y a des situations où 3, 4, 5 cas sont décrits dans le monde et on imagine qu'il est bien difficile pour un médecin, médecin traitant, médecin pédiatre de ville d'identifier cette maladie et de porter un nom directement. C'est pour ça qu'il y a, et ça un effort national depuis 2004, il y a le plan national maladies rares, qui est souvent pas très bien connu finalement. On connaît le plan cancer, on connaît le plan Alzheimer, mais il existe aussi un engagement assez fort en France et je crois que la France a été un peu pionnière sur ce domaine. Il y a un engagement avec un plan pour favoriser l'accès à des experts ou des spécialistes qui pourront aider à contribuer au diagnostic. Et c'est tout le réseau de ce que l'on appelle les centres de référence maladies rares, qui sont à un nombre supérieur de 130 centres de référence en France actuellement, organisés en filières de santé. Il y a 23 filières thématiques sur des grands thèmes de maladies. Pour ce qui me concerne, c'est les maladies auto-immunes, auto-inflammatoires, mais il y en a dans tous les champs de la médecine, ces 23 champs, et qui permettent d'accéder plus rapidement à un diagnostic. On ne demande finalement pas à nos collègues médecins traitants de pouvoir porter le diagnostic, mais de pouvoir l'évoquer et adresser au bon endroit les patients afin qu'ils puissent bénéficier d'explorations complémentaires.
Donc c'est vraiment les médecins qui orientent les patients vers ces centres-là?
Oui, et on a intérêt à faire connaître ce plan maladie rare parce que je crois qu'il est moins bien connu que d'autres plans, pour que l'ensemble des personnels médicaux puissent savoir qu'il est fait pour eux, ils peuvent avoir recours à ces services, et il y a tout un maillage territorial qui essaye finalement de participer à une égalité d'accès au diagnostic sur l'ensemble de la France et des DOM-TOM afin de faciliter ces diagnostics où que l'on soit en France.
C'est moins connu que les plans cancer, les maladies rares de par leur nom sont rares et donc forcément méconnues. Est-ce qu'il y en a malgré tout, je pense aux auditeurs qui se disent mais de quoi est-ce qu'on est en train de me parler, est-ce qu'il y a quand même des maladies qu'on connaît sans savoir forcément que c'est des maladies rares?
Je pense qu'il y a une tribune qui fait beaucoup de bien aux maladies rares parce qu'on en parle beaucoup, c'est le Téléthon et la myopathie de Duchenne par exemple, qui en est un des emblèmes, correspond à une maladie rare. La mucoviscidose est une maladie rare. Il y a de nombreuses maladies que je ne doute pas, les gens connaissent, la sclérose latérale amyotrophique. Il y a des maladies inflammatoires comme celles dont on s'occupe nous dans la filière, comme le lupus, la sclérodermie, qui sont des maladies. Au moins, ces mots-là ont pu être entendus chez une tante, chez un cousin qui peut avoir cette maladie-là. On considère que c'est 3 millions de personnes en France, donc c'est un chiffre important. Mis bout à bout, tout le monde connaît quelqu'un qui a une maladie rare. Donc oui, la liste est longue, il y a 8000 maladies, mais je suis convaincu que des auditeurs connaissent une ou deux ou plusieurs maladies rares et sans doute des gens autour d'eux qui ont une maladie rare.
Est-ce que certaines parties du corps peuvent être davantage à risque que d'autres? Comment ça fonctionne une maladie rare? Ça prend l'ensemble du système? J'imagine que ça dépend des maladies, mais est-ce qu'on peut peut-être dresser une sorte de profil type?
Alors c'est là où on est vraiment en difficulté de pouvoir proposer un profil type, parce que ces maladies rares, elles sont extrêmement polymorphes. Il va dépendre finalement des symptômes et de l'organe affecté. Parfois, il peut s'agir de malformations. Elles peuvent être démasquées même en anténatal lorsqu'il s'agit de malformations du cœur, du rein, du cerveau. Et d'autres maladies sont invisibles avant la naissance et vont se manifester au fil des premières années parce qu'il y a un système qui ne fonctionne pas correctement. Par exemple, le système immunitaire qui conduit à un déficit immunitaire. On fait beaucoup d'infections, des infections sévères et ou des maladies auto-immunes très précocement. Ça ne se voit pas en anténatal, mais c'est à force du suivi des choses particulières et inhabituelles qui vont conduire à évoquer le diagnostic de maladies rares. Mais il est difficile de faire le portrait robot des maladies rares parce qu'elles sont tellement hétérogènes.
Quelles sont les conséquences, j'ai envie de dire, d'une maladie rare sur le quotidien d'un patient, au-delà vraiment de l'aspect médical de la chose? Est-ce qu'une maladie rare est considérée comme un handicap aujourd'hui?
Elle n'est pas considérée comme telle sous la forme d'un handicap, mais c'est un handicap caché et lors de cette journée internationale des maladies rares, on veut vraiment pointer ces éléments parce qu'elles ont en commun le sentiment de solitude, parce que lorsqu'on est atteint d'une maladie rare, eh bien, on n'a pas forcément des gens autour de nous qui ont la même maladie. On peut avoir un sentiment d'abandon, on a souvent peu de traitements également. Donc tous ces éléments-là sont partagés par tous les patients qui ont une maladie rare. Et bien sûr, ça retentit sur la qualité de vie, puisque si on a peu de traitements, ce sont des maladies génétiques. Le poids aussi de l'annonce de ces diagnostics, de diagnostics génétiques qui sont possiblement héréditaires, eh bien, sont une dimension vraiment importante que l'on travaille dans tous les centres de référence pour essayer de les améliorer. Et la qualité de vie est en ligne de mire, bien sûr, de la prise en charge des patients avec maladies rares.
Quel peut être le rôle du patient? Comment est-ce qu'il peut aider, combattre sa maladie?
Il y a désormais, et ça c'est une tendance hein, depuis sans doute une dizaine d'années, le patient devient acteur de sa propre santé. Et c'est dans cet esprit, d'ailleurs, que les plans santé maladies rares ont été construits, avec des patients experts, des patients référents, qui peuvent, après avoir cheminé, après avoir eu un diagnostic et connu les difficultés initiales, participer, rassurer, aider d'autres patients en maladies rares. Et à ce titre, les associations de patients jouent un rôle vraiment majeur. Et il y a de nombreuses associations qui sont presque aussi nombreuses que le nombre de maladies rares qui sont regroupées. Il existe l'Alliance Maladies Rares qui regroupe l'ensemble de ces associations et puis d'autres consortiums, d'autres associations, qu'il s'agisse d'associations nationales, d'associations européennes. Mais le poids des associations de patients est vraiment majeur et il a contribué à faire avancer les plans santé maladies rares, clairement.
Vous le disiez tout à l'heure en début de cet entretien, les maladies rares sont souvent des maladies orphelines, donc il n'y a pas de traitement curatif qui existe pour beaucoup d'entre elles. En quoi consiste la prise en charge thérapeutique aujourd'hui d'une maladie rare?
Elle est multidisciplinaire et c'est là-dessus que l'on peut insister. Les centres nationaux de référence, ce sont des centres multidisciplinaires. Ce n'est pas un docteur qui peut suivre un patient en maladie rare. Il faut qu'il y ait toute une équipe médico-sociale avec des infirmières, des assistantes sociales, des kinés, tout un personnel qui est dédié et qui est capable de prendre en charge l'ensemble des dimensions médico-psychosociales des maladies rares. Donc c'est un travail d'équipe et c'est un travail de longue haleine. Ensuite, le patient lui-même peut être acteur à travers des séances d'éducation thérapeutique et d'accompagner des patients nouvellement diagnostiqués. Donc c'est un groupe humain, des équipes spécialisées sur un diagnostic souvent extrêmement rare pour la prise en charge. Ça, c'est l'aspect du groupe et de l'équipe. Ensuite, les thérapeutiques, eh bien, ce sont des thérapeutiques qui sont souvent rares. La majorité, malheureusement, des patients n'ont pas de traitement dédié. Néanmoins, la recherche, et la recherche cette fois-ci plutôt académique, eh bien, elle peut aider lorsqu'on comprend mieux à quoi est due la maladie, comment on peut la traiter, quels sont les médicaments que l'on peut apporter. Et finalement, la recherche est directement liée à des nouvelles découvertes et des nouvelles thérapeutiques pour ces patients qui sont atteints de maladies rares et souvent génétiques.
Aujourd'hui, les traitements, finalement, c'est des traitements dits de confort. C'est quelque chose pour essayer de les aider à mieux vivre ou il y a quand même une vraie vocation curative derrière pour essayer de les soigner?
Longtemps, ça a été surtout des soins de support parce qu'on n'avait pas beaucoup d'autres solutions. Et à nouveau, on a quand même une révolution dans le champ des thérapeutiques à travers tout l'aspect des biomédicaments, des thérapeutiques ciblées, de la capacité que l'on a de développer des thérapeutiques qui vont aller pointer du doigt et bloquer le mécanisme responsable de telle ou telle maladie. Alors, ce n'est pas une généralité. Malheureusement, il y a beaucoup de maladies pour lesquelles on ne peut pas accéder à ce type de traitement, mais certaines thérapeutiques basées sur des anticorps, par exemple, permettent de clairement modifier l'évolution des maladies. Il y a aussi beaucoup d'espoir. Ça nous vient du monde du cancer, où ils sont un peu pionniers et en avance, mais il y a des espoirs dans le champ des thérapies cellulaires. Des thérapies cellulaires et thérapies géniques, dont la France a été d'ailleurs une des pionnières avec les bébés bulles et l'expérience de l'équipe du professeur Fischer et Marina Cavanna-Calvo à Necker. Et ce champ, avec la révolution technologique qui existe actuellement autour des outils de la thérapie génique, eh bien, on peut avoir aussi espoir que dans 10 ans, 15 ans, certaines de ces maladies génétiques puissent être traitées par thérapie génique. Et on parle cette fois-ci de traitement curatif.
Le Généthon vient d'annoncer le lancement d'un nouvel essai clinique justement pour les enfants atteints d'une maladie, la maladie de Crigler-Najjar. Où en sont les recherches aujourd'hui sur les maladies rares? Des essais comme ça, il y en a régulièrement quand même ou c'est vraiment un événement dans la recherche sur les maladies rares?
C'est encore un événement dans le champ des maladies rares parce que l'effort nécessaire pour monter un essai clinique de cette envergure comme celle de cette maladie Crigler-Najjar hépatique ou d'autres maladies, les bébés bulles, la thalassémie, drépanocytose et d'autres maladies, même neurologiques, adrénoleucodystrophie. Ce champ de maladies, je dirais que pour traiter un patient dans le cadre d'un essai, il faut lever plusieurs millions d'euros pour pouvoir en faire la démonstration. Et ça reste du coup des éléments très difficiles à construire et à monter, avec souvent peu de soutien de l'industrie, puisque ce ne sont pas des marchés importants pour eux. Donc c'est grâce aux efforts de Généthon, c'est grâce aux efforts des dons des gens aux différentes manifestations et à l'intérêt public qui peut financer ce genre d'études, parce que lorsqu'elles font la démonstration qu'elles fonctionnent, et bien derrière il y aura la possibilité sans doute de l'étendre à beaucoup plus de monde. Donc c'est un enjeu vraiment majeur, mais qui repose essentiellement sur la générosité et l'intérêt public.
Est-ce qu'il y a des avancées notables sur le sujet de ces maladies rares depuis ces dernières années quand même?
Oui. Il y en a, je dirais, il y a deux grandes révolutions que l'on a connues sur les dernières années. La première est pour moi une révolution diagnostique. Jusque-là, on était en peine, même lorsqu'on suspecte une cause génétique, de faire la démonstration de cette atteinte génétique. Il fallait regarder les gènes un par un, il fallait étudier des familles avec plusieurs cas, et c'était un travail assez laborieux et difficile d'approche au niveau génétique. Et depuis 2003, on a pu séquencer, ça avait fait beaucoup de bruit, l'ensemble du génome, l'ensemble du code génétique pour un individu. Et ce premier génome que l'on a pu obtenir en 2003, il a coûté 3 milliards de dollars. C'était un coût très important. Eh bien, il faut savoir que maintenant, en 2018, la même analyse, on peut la proposer quasiment à tous les patients pour un coût autour de 1 000 $. Donc on voit la différence, le saut technologique qui nous permet désormais de regarder chez un individu l'ensemble des gènes, l'ensemble du code, l'ensemble des choses qui nous constituent, qui constituent nos protéines et l'ensemble de notre organisme. Eh bien, à travers cette révolution génétique, c'est un moyen de découvrir et de comprendre les maladies rares de nos patients. Donc il y a le plan France Génomique 2025 qui contribue à alimenter. Il y a deux plateformes qui ont déjà été désignées, c'est à Lyon et Paris, qui vont permettre d'avancer sur le diagnostic de ces maladies rares. Donc pour moi, c'est la première révolution. La seconde, elle est effectivement thérapeutique avec les espoirs de la thérapie génique. Il y a de nombreux essais qui sont en train de profiter d'une nouvelle technologie. Je disais qu'il y avait un bond aussi au niveau thérapeutique. Alors c'est un gros mot, on appelle ça la CRISPR-Cas9. Elles ont été découvertes assez récemment. C'est des enzymes qui permettent en quelque sorte de faire de la microchirurgie sur l'ADN. On peut aller couper l'ADN et le remplacer, et on imagine remplacer la zone qui est anormale, la zone qui est mutée. Et donc cette nouvelle technologie qui est disponible pour les médecins, pour les chercheurs, eh bien, elle est en train d'être mise en place dans de nombreux labos académiques, dont ici à l'INSERM à Lyon, où je travaille sur ces sujets maladies rares. Eh bien, nous avons la possibilité de réparer et peut-être demain de généraliser cette réparation à beaucoup de maladies rares et génétiques.
Est-ce qu'on peut imaginer une prise en charge de la sécurité sociale ? Comment est-ce que les patients peuvent gérer ces coûts de traitement qui doivent être lourds ?
C'est clair, c'est le revers de la médaille, c'est que ces traitements, à l'heure actuelle, ils sont très coûteux. Mais je dirais parce qu'ils sont en process de développement. Et c'est le point commun de tous les nouveaux traitements avant qu'ils puissent être généralisés, réalisés sous une forme industrielle, finalement. Avant qu'on arrive à cette étape, les débuts sont extrêmement laborieux, longs, coûteux. Et néanmoins, l'objectif, s'il fonctionne, c'est de permettre le traitement et la généralisation et le remboursement par la sécurité sociale. Dans le cas de la thérapie génique, qui est un espoir, alors de moyen terme, il ne faut pas... Même s'il y a de nombreux essais ici et là, il faut reconnaître qu'on est quand même dans une perspective plutôt de moyen terme, c'est pas du court terme. Néanmoins, on parle de traitement curatif. Et il faut, lorsqu'on soigne et que l'on guérit une maladie rare, une maladie génétique, on imagine par ailleurs les économies que l'on fait d'un handicap et d'une qualité de vie améliorée, d'un handicap réduit, de tous ces éléments qui ont un coût énorme pour la société. Donc toutes ces mesures-là, elles visent en effet à améliorer le quotidien des patients et permettre un remboursement par la sécurité sociale et une prise en charge complète. C'est l'espoir pour les prochaines années ou dizaines d'années.
Aujourd'hui, on peut vivre avec une maladie rare ?
Oui, bien sûr, on peut vivre avec une maladie rare et on peut être fier de sa maladie rare. C'est l'objet de la journée que l'on organise sur Lyon, à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants, sous la forme un peu d'une fête où le matin, nous allons accueillir les patients et puis l'après-midi, un cycle de conférences pour sensibiliser le grand public à ces maladies rares.
C'est important de sensibiliser le grand public, pourquoi ? Pour qu'ils comprennent ce que c'est ou pour essayer de lever des fonds aussi ?
C'est un petit peu les deux, sans doute, et c'est de sensibiliser les gens à la problématique maladies rares, au fait qu'elles sont extraordinaires dans le sens où elles sont rares et peu fréquentes, qu'il y a néanmoins autour de chacun d'entre nous quelqu'un qui a une maladie rare, c'est 3 millions de personnes en France, c'est beaucoup mis bout à bout, et il y a un plan maladies rares qu'il faut médiatiser parce qu'il est fait pour les patients, pour faciliter leur prise en charge, et le grand public doit être au courant de ces manifestations et de cette organisation des soins.
Il y a un plan national, il n'y a pas du coup de politique régionale de l'ARS sur ces thématiques-là. Est-ce que les ARS en région pourraient avoir ce coup de pouce-là ? Est-ce qu'à l'avenir, on pourrait imaginer qu'il y ait d'autres choses qui se développent aussi en région ?
Oui, absolument. Je pense qu'on pourrait imaginer des engagements complémentaires des ARS autour de cette thématique maladie rare qui actuellement est nationale, avec une couverture néanmoins l'ensemble des régions est couverte par ces différents centres, mais l'ARS pourrait être un coup de pouce complémentaire. Je dirais toutes les bonnes volontés autour des maladies rares seraient des coups de pouce complémentaires et on a intérêt à faire connaître ces actions.
Merci beaucoup, docteur Alexandre Belot. Donc vous êtes rhumatopédiatre, notamment à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants à Bron, et puis responsable du centre de référence maladies rares, des rhumatismes inflammatoires et des maladies auto-immunes, notamment chez l'enfant.
Merci beaucoup, merci.